Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui est un jour important pour environ 2200 personnes qui fêtent leurs 65 ans en France métropolitaine et en Outre-mer. À tous ceux qui ont déjà franchi le cap des 65 ans et à ceux qui célèbrent cet anniversaire, vous entrez dans la zone à risque. Ça y est, j'ai toute votre attention. Il faut savoir que plus de 90% des personnes de 65 ans et plus sont déjà porteuses du virus responsable du zona. Et le principal facteur de risque, c'est tout simplement l'âge. Alors, si vous avez 65 ans ou plus, c'est le bon moment pour en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui. Plus d'informations sur demain-santé.fr.
Ce message de sensibilisation vous a été présenté par le laboratoire GSK.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Vous écoutez Radio Classique, il est 9h. Les informations, Augustin Lefebvre.
L'interdiction de la vente des couteaux aux mineurs sera effective dans les 15 jours. C'est ce que précise Matignon ce matin au lendemain de l'annonce du Premier ministre François Bayrou. Mesure prise après l'agression mortelle d'une surveillante en Haute-Marne par un collégien de 14 ans. Une minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires demain, annonce ce matin la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Mohamed Amra a été extrait de la prison de Condé-sur-Sarthe ce matin pour être entendu par des juges d'instruction à Paris. Le narcotrafiquant est transféré en hélicoptère, escorté par le GIGN. Il y a un peu plus d'un an, il avait profité d'un transfert pour s'évader. Deux agents pénitentiaires avaient été tués, trois grièvement blessés. Il avait finalement été arrêté en Roumanie après neuf mois de cavale. Et puis, au Groenland, la glace a fondu 17 fois plus rapidement que la moyenne le mois dernier, conséquence d'une vague de chaleur qui a touché le territoire. Selon l'Observatoire européen Copernicus, ce mois de mai a été le deuxième plus chaud de l'histoire. Il est toutefois repassé sous la barre symbolique du degré et demi de plus au-dessus des moyennes de l'ère pré-industrielle.
Suivez le Point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
Et on retrouve Sylvie Aubert d'Investir. Bonjour Sylvie, quelle est la tendance ce matin ?
Bonjour Augustin, bonjour à tous. Eh bien, après une quasi-stabilité hier à 7804 points pour le CAC 40, figurez-vous qu'il ouvre en hausse de quelques points à nouveau. 7815 là à la seconde. Alors pourtant, la deuxième journée des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine à Londres a été très fructueuse. Il semblerait qu'un accord soit intervenu à propos des terres rares. Vous savez, ces matériaux indispensables à de nombreuses industries comme la défense, l'automobile ou encore les semi-conducteurs. La Chine en regorge et les États-Unis voudraient y accéder plus facilement. De leur côté, les Chinois souhaitent mieux s'approvisionner en technologie américaine. Alors, les deux présidents doivent maintenant signer cet accord, mais comme le diable se niche dans les détails, il n'est pas dit que tout se déroule sans accroc et les marchés financiers sont prudents. Les investisseurs vont suivre aussi de près les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour se faire une idée sur la prochaine attitude de la Réserve fédérale américaine. Va-t-elle abaisser les taux d'intérêt ? Eh bien, ce n'est pas dit, car la Fed risque de provoquer à nouveau de l'inflation. Et à l'issue de son comité des 17 et 18 juin, elle pourrait choisir le statu quo. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
Merci Sylvie, il est 9h passé de 3 minutes, c'est l'heure de partir du côté de chez Franck. Franck Ferrand, bonjour.
Bonjour Augustin, bonjour à tous. Prêts à plonger dans la recherche du temps perdu, à aller nous ragaillardir à la prose de Marcel Proust ? Eh bien allons-y.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Pour des générations d'écoliers, l'entrée dans la recherche du temps perdu s'est faite par ce petit roman enchâssé dans le grand qu'est Un amour de Swann. C'est un peu étrange d'ailleurs, cette espèce de flashback au milieu du premier tome de la recherche. Cet amour de Swann écrit quasiment comme un roman classique dans la structure la moins classique qui puisse exister dans notre littérature. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit le meilleur accès. L'auteur lui-même conseillerait sans doute d'attaquer par l'attaque, de débuter par le début, c'est-à-dire le fameux incipit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure, aussitôt ma chandelle éteinte ». Vous savez, c'est le début, bien sûr, du premier tome du côté de chez Swann. Pour ma part, je vais vous proposer d'entrer dans la recherche par un texte qui ne fait pas partie de la recherche. Il s'agit en vérité de la préface que Marcel Proust avait écrite à Sésame et les Lys de Ruskin et qui a été tirée à part sous le titre « Sur la lecture ». Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tous ceux qui, semblait-il, les remplissaient pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis qu'au-dessus de notre tête le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Marcel Proust nous raconte, dans la maison de sa tante Léonie, les matinées, les après-midi qu'il a pu passer dans les lectures les plus extraordinaires. Il raconte à quel point l'arrivée de la promenade, la descente des différentes chambres des membres de la famille, l'importune, l'enjette, malheureusement, écrit-il, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler. Mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table ». Et rien que pour répondre « Non, merci bien », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement « Non, merci bien », lui donner une apparence de vie ordinaire. Et puis, les choses dégénèrent, la famille rentre, il va falloir déjeuner. « Cela, écrit-il, cela, c'était la désolation. » car ce serait un mauvais exemple pour les autres arrivants. Aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner ». Eh bien, d'Encombré, qui donc est le premier livre de la recherche, le premier cahier du premier tome de la recherche, vous trouvez les phrases suivantes. « Quand j'étais fatigué d'avoir lu toute la matinée dans la salle, jetant mon plaid sur mes épaules, je sortais ». Mon corps, obligé depuis longtemps de garder l'immobilité, mais qui s'était chargé sur place d'animation et de vitesse accumulée, avait besoin ensuite, comme une toupie qu'on lâche, de les dépenser dans toutes les directions.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il y a tout un bestiaire de personnages dans cette recherche du temps perdu. Et dans le premier volume d'Encombré, on parle bien sûr du docteur Cottard, de Swann, qui est un peu la figure tutélaire, d'un certain Le Grandin, de la grand-tante, et puis de la grand-mère qui va devenir un personnage si important. Mettons, jetons notre dévolu sur Le Grandin, si vous voulez bien. En rentrant de la messe, nous rencontrions souvent Monsieur Le Grandin, qui, retenu à Paris par sa profession d'ingénieur, ne pouvait, en dehors des grandes vacances, venir à sa propriété de Combray que du samedi soir au lundi matin. C'était un de ces hommes qui, en dehors d'une carrière scientifique, où ils ont d'ailleurs brillamment réussi, possèdent une culture toute différente, littéraire, artistique, que leur spécialisation professionnelle n'utilise pas et dont profite leur conversation. Plus lettré que bien des littérateurs, doué de plus de facilité que bien des peintres, il s'imagine que la vie qu'il mène n'est pas celle qui leur aurait convenu et apporte à leur occupation positive soit une insouciance mêlée de fantaisie, soit une application soutenue et hautaine, méprisante, amère et consciencieuse. Oh, je relis cette dernière phrase parce qu'elle est proustienne en diable et elle nous dit à quel point le portrait chez Proust confine à la radiographie. Je le cite de nouveau. « Il s'imagine que la vie qu'il mène n'est pas celle qui leur aurait convenu et apporte à leurs occupations positives soit une insouciance mêlée de fantaisie, soit une application soutenue et hautaine, méprisante, amère et consciencieuse. Ce monsieur Le Grandin, qui a priori pourrait passer pour sympathique et qui du reste réserve généralement à la famille le meilleur accueil, se trouve être, et là nous sommes au cœur même de la problématique proustienne, se trouve être un snob. Et le narrateur va s'en rendre compte un jour qu'en sortant de la messe justement, sa maman se rend compte qu'on n'a pas pris les gâteaux à la pâtisserie, qu'il faut faire demi-tour. Donc il repart avec son père et il croise Le Grandin qui est en grande conversation avec une dame de la noblesse locale. Et alors là c'est un peu différent. Je cite de nouveau Marcel Proust parlant de Monsieur Le Grandin. Au moment où nous arrivions à la maison, maman s'aperçut qu'on avait oublié le Saint-Honoré et demanda à mon père de retourner avec moi sur nos pas, dire qu'on l'apporta tout de suite. Nous croisâmes près de l'église Le Grandin qui venait en sens inverse, conduisant la même dame à sa voiture. Il passa contre nous, ne s'interrompit pas de parler à sa voisine et nous fit du coin de son œil bleu un petit signe en quelque sorte intérieur aux paupières et qui, n'intéressant pas les muscles de son visage, put passer parfaitement inaperçu de son interlocutrice, mais cherchant à compenser par l'intensité du sentiment le champ un peu étroit où il en circonscrivait l'expression, dans ce coin d'azur qui nous était affecté, il fit pétiller tout l'entrain de la bonne grâce qui dépassa l'enjouement, frisa la malice. Il subtilisa les finesses de l'amabilité jusqu'au clignement de la connivence, aux demi-mots, aux sous-entendus, au mystère de la complicité et finalement exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse, jusqu'à la déclaration d'amour, illuminant alors pour nous seuls, d'une langueur secrète et invisible à la châtelaine, une prunelle enamourée dans un visage de glace. S'agit-il bien de la petite phrase de la sonate de Vinteuil? En tout cas, il s'agit bien de la sonate numéro 1 de Fauré, interprétée au violon par Geneviève Laurenceau et au piano par David Bismuth.
Vous écoutez Radio Classique.
On aimerait rester dans Combray, parler des carafes de la Vivonne, aller du côté de mes églises ou du côté de chez Swann, mais il va falloir en repartir, non sans tout de même évoquer le moment crucial, le moment essentiel. Vous allez voir de quoi je vous parle. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre contre mon habitude un peu de thé. Je refusais d'abord et je ne sais pourquoi je me ravisais. Elle envoya chercher un de ces petits gâteaux courts et dodus appelés « Petite Madeleine » qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé.
sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Et un petit peu plus loin, et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents, sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann et les nymphéades, la vivonne et les bonnes gens du village et leur petit logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Voilà cette évocation en réminiscence qui va faire le cœur même de la recherche du temps perdu. Le temps, là, on l'a déjà retrouvé. On le retrouvera surtout tout à fait dans le dernier tome qui s'appelle « Le temps retrouvé ». Alors, il faudrait prendre le temps de s'attarder sur certains des personnages. On pourrait d'ailleurs imaginer des émissions où l'on ne traiterait que d'un des personnages, à commencer par la grand-mère du narrateur, qui est la véritable figure maternelle, en vérité, de cet écrit-là. Cette grand-mère qui va l'emmener pour essayer de calmer ses nerfs et de canaliser sa nature poétique, qui va l'emmener au bord de la mer, en Normandie. J'allais vous dire à Cabourg, mais en vérité, dans la cité transfigurée de Balbec. Et alors là, on arrive dans un grand hôtel. Il y a le petit narrateur et sa grand-mère, il y a le directeur de l'hôtel, il y a le liftier, il y a tout l'univers d'un grand hôtel en bord de mer, et puis surtout, il y a la mer elle-même. Nous sommes, vous l'aurez compris, dans le deuxième cahier des jeunes filles en fleurs. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est l'ouvrage qui obtiendra le prix Goncourt en 1919, mais le lendemain matin. Après qu'un domestique fût venu m'éveiller et m'apporter de l'eau chaude, et pendant que je faisais ma toilette et essayais vainement de trouver les affaires dont j'avais besoin dans ma malle, d'où je ne tirais pêle-mêle que celles dont je ne pouvais rien faire, quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir dans la fenêtre et dans toutes les vitrines des bibliothèques, comme dans les hublots d'une cabine de navire, la mer nue, sans ombrage, et pourtant à l'ombre sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile, et de suivre des yeux les flots qui s'élançaient l'un après l'autre comme des sauteurs sur un tremplin. Et un petit peu plus loin, à tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournais près de la fenêtre jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là polies et translucides, lesquelles avec une placide violence et un froncement léonin laissaient s'accomplir et dévaler les croulements de leur pente auxquels le soleil ajoutait un sourire sans visage. Et il ajoute fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin comme au carreau d'une diligence dans laquelle on a dormi, pour voir si pendant la nuit s'est rapprochée ou éloignée une chaîne désirée, ici ces collines de la mer qui, avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n'était qu'après une longue plaine sablonneuse que j'apercevais à une grande distance leurs premières ondulations, dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre comme ces glaciers qu'on voit au fond des tableaux primitifs toscans.
«
Suzanne Graham, accompagnée par Roger Vignol, interprétait la sublime mélodie « À Cloris » de Reynaldo Hahn, le meilleur ami sans aucun doute de Marcel Proust.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Évidemment, il n'y a pas que la campagne, il n'y a pas que Combray, ni même la mer telle qu'elle figure à Balbec ou depuis l'atelier du peintre Elstir. Un peintre Elstir qui procède d'une manière à la fois impressionniste et expressionniste, exactement comme le narrateur lui-même. Non, il y a la ville aussi. Il y a la découverte de la haute société parisienne à travers le salon du duc et de la duchesse de Guermantes. Oriane de Guermantes, figure essentielle, figure centrale en quelque sorte de la mondanité proustienne. Et puis, il y a les salons plus bourgeois, moins faubourgs, comme celui de Madame Verdurin, qu'on avait découvert dès Un amour de Swann. Madame Verdurin, personnage inoubliable de la recherche, personnage insupportable d'une mondanité dont Proust ne sait pas s'il doit la sublimer ou définitivement la détruire. Je cite ce qu'il nous dit de Madame Verdurin, qui était assise, dit-il, sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jurât avec les beaux meubles anciens qu'elle avait. Mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tînt aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se détruisent, mais elle n'y réussissait pas, et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de redites et un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait un habitué contre un ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux, et pour le plus grand désespoir de M. Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite et avait été distancé et vaincu par cette ruse d'une incessante et fictive hilarité, elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau qu'une taie commençait à voiler et, brusquement, comme si elle n'eut que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissaient plus rien voir, elle avait l'air de forcer, de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Elle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin, juchée sur son perchoir, pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Madame Verdurin va devenir, ça ce sera l'une des surprises du bal de tête, ce dernier moment dans le temps retrouvé où après des années le narrateur retrouve totalement vieilli, transformé par le temps et par l'âge tous ceux qu'il a si fréquemment rencontrés dans les salons du faubourg Saint-Germain. Elle deviendra dans ce dernier tome elle-même princesse de Guermantes, transfiguration sociale qui est peut-être là encore un des secrets de Proust. C'est dans la cour de l'hôtel de Guermantes qu'il va faire d'ailleurs la découverte du secret intime de toute la recherche du temps perdu, c'est-à-dire le principe de réminiscence, la fameuse réminiscence proustienne. Deux pavés disjoints de la cour de l'hôtel lui rappellent les mêmes pavés également identiquement disjoints de la place Saint-Marc à Venise et lui font revivre des heures vénitiennes qu'il avait le sentiment d'avoir oubliées, ou plus exactement, qu'il n'avait pas vécu dans leur plénitude à l'instant même où elle se présentait. Voilà le sens du récit proustien et voilà l'expérience qu'il veut vous faire partager.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
J'aurais bien aimé quand même évoquer Sodome et Gomorre, évoquer la fugitive, la prisonnière, l'extraordinaire jalousie d'un narrateur que cette jalousie crucifie d'une certaine manière, à la manière dont elle avait crucifié Swann lui-même dans Un amour de Swann.
Bon, ce n'est peut-être pas ni le jour ni l'heure de le faire. Je voudrais évoquer la disparition d'un personnage qui est un critique d'art. Il s'appelle Bergotte. On est justement dans l'ouvrage, on est dans la prisonnière. Et Bergotte est très malade. La mort, celle de Bergotte, survint la veille de ce jour-là, raconte donc Proust dans La prisonnière. Alors qu'il s'était ainsi confié à un de ses amis trop puissants, il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos, mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delphes de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas était si bien peint qu'il était si on le regardait seul comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffisait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, et il fut pris d'un étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et le soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison en bord de mer. Alors Bergotte regarde, il observe le tableau et finalement, il le voit, ce petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs. Rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Et il va aller se répétant, « petit pan de mur jaune, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre, pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Et à la page suivante, toujours dans la prisonnière, le narrateur nous dit « On l'enterra ». Mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection. Cette brève plongée dans des passages parfaitement subjectifs de la recherche, nous l'avons ouverte par un texte qui n'appartenait pas à la recherche. Nous allons faire de même en évoquant les mémoires de Céleste Albaret. Céleste Albaret, c'est cette femme tellement dévouée qui a été la domestique de Marcel Proust, qui a été sa confidente et qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. « Je n'ai quitté Monsieur Proust », écrira-t-elle plus tard dans son autobiographie. Elle ne mourra qu'en 73, Céleste. « Je n'ai quitté Monsieur Proust qu'au cimetière et même alors, je n'y croyais pas. Et puis un jour, il y a eu cette chose extraordinaire. Comme j'étais descendu de l'appartement, j'ai vu soudain la vitrine de la librairie qui était près de la maison, rue Hamelin. Elle brillait de lumière et, derrière la glace, il y avait les ouvrages de M. Proust, trois par trois. J'ai eu comme un éblouissement de ses préciences et de cette certitude qu'il avait en lui. En pensant à la page de son livre où il parle de la mort de Bergotte. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre aux vitrines éclairées, ses livres disposés trois par trois veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah, on aimerait rester encore avec Proust et ses silhouettes féminines et toutes les autres. Il y a un moyen tout simple, hein, c'est d'aller dans votre bibliothèque, vous attraper un des volumes de la recherche et vous vous plongez dans ce monde d'élégance et de raffinement suprême. Élégance et raffinement suprême, belle transition vers l'émission qui suit et vers Christian Morin. Bonjour mon cher Christian.
Que dire, merci beaucoup mon cher Franck, et bonjour à vous et bonjour à Franck bien sûr. Alors, vous évoquiez Proust, si vous avez du temps retrouvé, eh bien profitez-en pour écouter Radio Classique, par exemple, et passer la matinée
radio
avec...
du temps retrouvé. C'est
voilà. Beau, mais ça. Vous savez que Proust, enfin vous le savez, mais Proust est né pas très loin de Radio Classique.
Oui, mais il a vécu dans le quartier, là, tout le temps, presque
il
tout
avait,
le temps.
On retrouve même la librairie, sa librairie
oui,
favorite.
Bien sûr, la librairie Fontaine, juste à côté de chez nous, bien sûr.
Voilà.
Au bout de la rue Laborde.
Cet après-midi, vous nous parlerez de la dernière reine, Marie-Amélie.
Ah oui, l'épouse de Louis-Philippe.
À tout à l'heure, 14h, et à demain matin avec bonheur.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec les chefs-d'œuvre des grands compositeurs. Venez écouter le meilleur du classique. Avec la soprano Angélique Boudeville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris. Réservé dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine. Cyrus Cérès, gestion de fortune, orchestre votre patrimoine en toute harmonie. Grâce à notre approche en architecture ouverte, votre patrimoine devient une œuvre qui allie sérénité, performance et héritage familial. Ensemble, composons une symphonie patrimoniale qui résonnera aujourd'hui et demain. Cyrus Cérès, la gestion de fortune depuis 1989.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390€ par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Pour AXA, inventer l'assurance qui vous ressemble, c'est savoir que pour vous, une assurance vie, c'est bien plus que de l'argent.
Je vais enfin ouvrir ma librairie à Lancieux, là où je suis né. Mais être indépendant, ça change un peu. Alors ma conseillère AXA m'a proposé une assurance vie. Elle dit que ça pourrait m'aider plus tard, ou même pour un coup dur.
Chez AXA, nos conseillers vous accompagnent pour préparer votre avenir. Car l'assurance vie, c'est bien plus que de l'argent. Découvrez nos solutions d'assurance vie auprès de nos conseillers AXA ou sur AXA.fr. L'investissement en assurance vie peut exposer à un risque de perte en capital.
Le ballet Preljokaj s'empare des plus grands mythes à la scène musicale. Le chorégraphe visionnaire revisite les mythologies d'Aphrodite à Roland Barthes sur une musique orchestrale de Thomas Bangalter. Le ballet des jeux de lumière, costumes et projections vidéo sublime ce spectacle hors du commun. Mythologie par le ballet Preljokaj du 25 au 29 juin à la scène musicale.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute, comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 euros par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 euros hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulière du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Le PEA Fortuneo a été élu meilleur plan d'épargne en action 2025. Fortuneo, j'aime ma banque. Source Avenue des Investisseurs, février 2025. Détails de l'étude et conditions tarifaires sur Fortuneo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital. Et avec Fortuneo, retrouvez les voix de l'économie avec Stéphane Pedrazzi à 7h15 dans la matinale de Radio Classique.
Dans un instant, Tous Classiques avec Christian Morin. Chez GMF, être assurément humain, c'est penser à votre quotidien autant qu'à votre protection. GMF vous offre 2 mois pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation, et ce jusqu'au 30 juin. GMF,
Assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. midi, tous classiques, avec Christian Morin sur Radio Classique.
Ce matin, en vous disant bonjour, eh bien, nous allons célébrer l'anniversaire de Richard Strauss, qui est né à Munich en 1864, le 11 juin, et il nous a quittés en 1949 à Garmisch-Partenkirchen, compositeur, chef d'orchestre, surtout spécialiste et connaisseur hors pair de l'orchestre. D'ailleurs, je vous donnerai un petit guide qu'il a écrit, des conseils aux jeunes chefs d'orchestre, c'est assez intéressant. Les opéras qu'il a, son œuvre est surtout connu du grand public, mais c'est avant tout grâce aux opéras comme Salomé, Electra, Le Chevalier à la Rose notamment, qu'on écoutera un extrait tout à l'heure, ainsi que de Salomé, mais aussi grâce aux poèmes symphoniques, je pense à Till l'Espiègle, Don Juan, et puis écoutez bien cette introduction, ainsi parlait Zarathoustra. Que vous faites partie de certains qui attendent la caisse claire et puis le roulement du percussionniste et du batteur de Elvis Presley, parce que Elvis Presley avait utilisé cette musique pour son introduction, son arrivée sur scène, notamment avec le fameux concert d'Hawaï retransmis dans le monde entier. On passe uniquement à l'introduction, c'est très emblématique. Cette œuvre de Richard Strauss était interprétée ici par le symphonique de la radio bavaroise que dirigeait Marie Janssen. Alors, le patronyme de Strauss, qui signifie bouquet, c'est assez joli, je ne le savais pas, je le découvre avec vous, est extrêmement commun dans les pays germaniques et il n'y a aucun lien de parenté entre Richard Strauss, le Bavarois, et les deux Johann Strauss, père et fils, originaires de Vienne et surnommés les rois de la valse. Alors, il y a quelques valses quand même composées par Richard Strauss qui sont présentes dans des œuvres qu'à titre de clin d'œil à la tradition viennoise, en référence à une époque antérieure, par exemple, dans l'opéra Le Chevalier à la Rose.
Thank you.
La suite de la valse numéro 2 de l'acte 3 du Chevalier à la Rose, son opéra le plus célèbre, donc Richard Strauss, avec cette version de l'Orchestre Philharmonique de Berlin que dirigeait Carl Böhm, véritable disciple de ce compositeur, dont il a très souvent dirigé des œuvres. Il a même écrit un livre en 1964, Rencontre avec Richard Strauss, autant d'anecdotes que Francis Drezel vous a racontées, puisque hier soir, c'était le thème de son discoportrait, Carl Böhm, grand chef. Alors, à propos de chef, je vous disais qu'il y a les 10 commandements de Richard Strauss à un chef d'orchestre. Par exemple, il ne suffit pas que tu entendes toi-même chaque mot du livret que tu sais par cœur, il faut qu'il soit compris sans peine du public. Si celui n'entend rien, il ronfle. Pourquoi pas? Lorsque tu crois que les cuivres ne jouent pas assez fort, il faut encore les réfréner. Ne transpire pas en dirigeant, seul le public a le droit de s'échauffer. Souviens-toi que tu ne fais pas de la musique pour ton plaisir, mais pour celui de tes auditeurs. Ça, c'est important. Et puis enfin, entre autres, il y a 10 commandements de Richard Strauss, entre autres, dirige Electra ou Salomé comme s'ils étaient de Mendelssohn, de la musique de fées. Ben justement, il y en a un qui a dû observer ses directions d'orchestre, c'est Rudolf Kempe, qui, dans les années 70, vers la fin de sa vie, et ce chef a enregistré à Dresde l'intégrale des œuvres avec l'orchestre de Richard Strauss, l'intégrale très très bien enregistrée et qui fait toujours référence. Voici un exemple avec la danse des sept voiles de Salomé avec la Stadtkapelle de Dresde. Thank you. La danse des sept voiles de Salomé de Richard Strauss, dirigée par Rudolf Kempe, à la tête de la Staatskapelle de Dresde. Alors, je vous lisais tout à l'heure les conseils de chef d'orchestre que Richard Strauss donne aux jeunes chefs d'orchestre, mais lui-même a dirigé la Staatskapelle de Berlin. Écoutez, c'est un document uniquement pour vous sur Radio Classique. Ça date de 1927. Écoutez, c'est le premier mouvement de la symphonie numéro 40 de Mozart. Petit document de 1927, Richard Strauss, dirigeant la Staatskapelle de Berlin, pour la symphonie numéro 40, le premier mouvement de Mozart. Quelques petites pages en couleur à tourner, et puis le flash de 10 heures dans 7 minutes.
Radio Classique, la radio musicale la plus podcastée de France. Franck Ferrand raconte.
À l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, pucelle d'Orléans.
Les histoires en musique d'Élodie Fondacci.
Encore une histoire ? Bon, d'accord.
Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini.
Beethoven est une magnifique preuve de l'âme.
Tous nos podcasts sont à retrouver sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Chez vous ou en voiture, améliorez votre expérience d'écoute de la radio grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et d'informations plus complètes sur la programmation musicale de votre radio. Plongez au cœur de vos programmes préférés en qualité numérique. Une offre de radio enrichie, gratuite et sans connexion Internet. Les radios vous accompagnent en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Opéra, ballet, récital, musique du monde, jeune public. Toutes les couleurs musicales sont à l'Opéra National de Bordeaux pour une nouvelle saison portée par des interprètes de prestige. Avec notamment Sabine Devielle, Sonia Yontcheva, le quatuor Modigliani, Daniil Trifonov, Hélène Grimaud, le rare Grigory Sokolov et bien sûr tous les artistes du ballet, du chœur de l'Opéra et de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. Vivez la musique passionnément en réservant sur opéra-bordeaux.com.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390€ par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pensez à covoiturer.
Malaven, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. 20 ans qu'il n'était pas retourné sur l'île de Malaven, jusqu'à cet appel d'un mystérieux écrivain. De cet homme, ils ne savent rien. Ils n'auront qu'une nuit pour comprendre et échapper au pire. Malaven, d'Olivier Ball. Un thriller machiavélique, un livre XO. Pensez-y pour la fête des pères.
Avant, la Révolution française, c'était ça. Mais maintenant, c'est ça. Bien plus confortable, non ? Citroën C3, avec ses sièges et ses suspensions Advance Comfort. À partir de 15 750 euros pendant les portes ouvertes du 13 au 16 juin. Disponible également en version électrique et hybride.
Citroën.
Tarif conseillé à particulier jusqu'au 30 juin pour l'achat d'une Citroën C3 U9 hors option. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vivez des concerts inédits avec des artistes en exclusivité au Musical du Luberon. En ouverture, Xavier Philippe avec les variations Goldberg en trio à cordes, Andrea Marcon et le Venice Baroque Orchestra exploreront la verve de Vivaldi. Jonathan Cohen et les voix de Soraya Maffi et Yestine Davis sublimeront Handel. Et en clôture, un duel pianistique entre André Manoukian et Jean-François Zigel. Parcourez la Provence avec les Musicales du Luberon du 11 au 29 juillet. Réservé sur musicalluberon.fr.
Vous n'étiez pas passé à l'électrique. Vous n'aviez pas encore essayé la voiture mondiale de l'année. Nouveau Kia EV3. Jusqu'à 605 km d'autonomie. À partir de 357 euros par mois. Jusqu'au 30 juin, sans apport.
Kia EV3 autonomie standard hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 357 euros TTC hors assurance facultative. Offre particulier si accord Kia Finance. Cycle WLTP sur version 81,4 kWh. Conditions sur kia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Dans un instant, tous classiques avec Christian Morin.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 euros option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 Adata mai 2025. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Peugeot. Pour tous les amoureux et les passionnés de l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est bien sûr 24 heures de course, mais c'est surtout 24 heures d'émotion. Et chez